Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast qui est toujours à Angoulême et qui marche. Alors là, je suis en salle de presse, j'ai eu un départ assez complexe, j'ai failli rater Aurélien Maury parce que je me suis perdu dans Angoulême, je suis trompé de sens, ah bravo. J'ai rencontré Jean-Lô de Comic City qui va peut-être me donner un coup de main pour mon interview de Stan Sakai, ce qui permettra d'avoir quelque chose d'anglais pas trop pourri, mais ça sera pas publié de suite parce que faudra que je vous fasse une traduction. Beaucoup de rencontres prévues dans la journée, on va passer un moment, je pense, très agréable. Donc Stan Sakai, Émile Bravo, Vincent Brugeat, Servé Toulouat, Chris et Sylvain Ricard pour la revue dessinée, et Edith. Donc là, en théorie, je devrais réussir à envoyer, uploader l'émission du jour, j'espère que je vais m'en sortir. Et puis après, j'ai un peu de temps libre, peut-être que je vais aller voir une expo, juste pour moi, parce que quand même, faut pas abuser. Je suis avec Aurélien Maury, l'auteur du Dernier Cosmonaute chez Tanibis, qui est aussi éditeur chez Tanibis, livre qui est sélectionné, enfin dans la sélection d'Angoulême, et qui est un petit peu mon chouchou pour le prix, j'ai oublié le nom du prix, Jeune Talent, ou je sais plus quoi, enfin bon. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
Alors on avait déjà parlé, on s'était croisé sur Aix. T'as un trait qui a beaucoup d'influence US dans le dessin. J'avais pensé un peu à Schultz dans le trait des personnages, à Ware au niveau de la mise en page, un peu de Close, un petit côté Calvin et Hobbes dans la thématique. T'es un gros lecteur de BD américaine hein ?
Alors gros lecteur, je sais pas, mais c'est vrai que les auteurs que tu as cités, je les aime beaucoup, je les lis. Toujours et beaucoup. Oui, je pense que ça fait partie de mes influences les plus importantes, quoi. Et voilà. Et on peut. Il y a quand même un peu d'influence franco-belge aussi, mais ça revient assez peu dans les retours du livre. On cite beaucoup Chris Ware. Bon, moi, je me sens plus proche effectivement de Whit Calvin et Hobbes ou Schultz, même si j'adore aussi Chris Ware. Mais il me semble que pour les personnages, pour leurs réactions, même les thèmes, comme tu as dit, ouais, il me semble que je suis plus proche de Calvin et Hobbes, Peanuts.
Au niveau de, le dernier cosmonaute, c'est un peu une introspection sur un personnage qui d'un coup veut pas grandir. C'était ton introspection à toi ou...
en tout cas, je suis pas parti comme ça. Après, il y a sûrement des choses qui m'ont un peu échappé. Il y a des points communs entre moi et le personnage. Après, lui, quand même, j'espère un peu plus, comment dire, dans sa bulle que moi, mais. Lui il rêve d'espace, moi ma bulle à moi, on va dire que c'est la BD, mais voilà. Mais après, non, c'est pas de moi qu'il s'agit dans le livre en tout cas.
Donc ta BD a été sélectionnée dans la sélection d'Angoulême. Tu t'y attendais ? T'as eu un choc ? C'était quoi ta réaction quand t'as appris ça ?
Alors non, je m'y attendais pas et on était surpris, un peu étonné, mais très content évidemment. Et donc non. Même maintenant, je réalise pas bien le pourquoi du comment, mais bon, voilà, on est dedans au cœur du festival, donc on verra ça une fois digéré. Je pense que je commencerai à réaliser ce qui se passe.
D'après toi, qui le mérite plus que toi ce prix ?
Bon, à peu près tout le monde. Non, je pense que je suis très content, mais c'est un peu tôt aussi. Je suis un peu intimidé aussi par cette sélection. C'est un honneur, mais à la fois, ça me met un peu de pression. Et oui, la pression, je gère pas forcément très très bien. Donc, mais il y a un tas de gens qui font des boulots qui mériteraient au moins autant une nomination ou un prix avant moi. Oui.
Au niveau graphique, au niveau de la mise en page, il y a un gros travail sur les espaces, avec parfois des strips seuls, avec des gouttières en haut et en bas de page très très fort. Tu joues beaucoup sur ça, c'est un moyen de jouer l'espace, de jouer la temporalité du récit. C'est un outil que tu utilises dans quel but ?
Alors, tu veux dire le décor, c'est ça, la place laissée au décor, ou aussi l'espace vide,
L'espace vide.
Ah d'accord, l'espace... Oui, bah, le vide, c'était... Oui, je voulais vraiment, comment dire... Il y a beaucoup de scènes de silence où il n'y a pas de dialogue, il y a des cases muettes, et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est le décor qui remplit l'espace ou qui signifie mieux le vide. Donc à la fin, il y a une scène qui se passe un peu dans un désert, et je voulais vraiment que ce soit un décor très épuré pour laisser le vide un peu remplir la place de la case ou de la page... parce que c'est un peu ce que traverse le personnage à ce moment-là. Il y a une espèce de grand appel d'air, et bon, voilà, c'était...
Et puis il y a aussi une grosse explosion métamphorique sur une double page cassée, assez impressionnante, justement, qu'on a eu tout ce vide en cours de route. Ça permet vraiment de la faire bien ressortir, j'ai trouvé.
Oui, voilà, ouais, c'est un peu un effet de contraste. Il y a une explosion très cacophonique, hein, pour moi, c'est ça, et du coup, ça, c'est vraiment en opposition totale avec les vides d'avant. Et puis c'est un personnage un peu prisonnier dans une espèce de lenteur, d'apathie, d'indécision, il stagne, et tout d'un coup, ça bouillonne quand même quelque part à l'intérieur, et ça explose. Donc sur une double page, vraiment, on est dans le contraste total avec ce qui se fait, et même graphiquement, on part, quoi. Et puis après, on revient éventuellement à un rythme d'avant, mais sur cette double page en question, ouais, c'était vraiment l'idée, voilà, d'avoir un contraste, une rupture.
Donc, tu es aussi éditeur chez Tanibis. Tanibis, ça existe depuis plus de 10 ans, c'est ça, à peu près ?
Oui, c'est ça. Alors moi, je ne suis pas vraiment éditeur, mais c'est plutôt Claude qui est vraiment l'éditeur de Tanibis. Moi, je suis plutôt le second couteau, et je porte des cartons, ce genre de choses. Non, mais je fais partie, évidemment, de Tanibis depuis le début. On a fondé cette structure associative il y a 10 ans. On s'était rencontrés dans un atelier de bande dessinée, et puis... Voilà, la rencontre a évolué petit à petit avec un projet d'édition de collectif qui s'est mué ensuite en projet de maison d'édition classique.
Tu as attendu 10 ans quand même pour sortir ton album. On peut pas vraiment dire que tu as monté ta maison d'édition pour sortir ta BD. Pourquoi est-ce que t'as mis tant de temps? C'est un projet qui était dur à mûrir?
Alors la structure d'édition, c'était pourtant l'idée. C'est-à-dire qu'au début, on l'a fait pour éditer les travaux qu'on avait fait pendant l'atelier. Bon, maintenant ça remonte un peu, mais c'est vrai que c'était des travaux de jeunesse qui n'étaient pas forcément... Enfin, je parle pour moi, pas des autres travaux qui étaient publiés, qui n'étaient pas forcément encore très mûrs. Moi, je me sentais pas d'attaquer un album, parce que déjà c'est un format qui est long, et déjà quelques pages, quand on commence, c'est pas simple. Et donc moi, il m'a fallu pas mal de temps pour mûrir tout ça. Et le projet lui-même, pour venir spécifiquement à ça, il a eu plusieurs formes. Au début, ça devait être un très petit album de 20 pages ou quelque chose comme ça, et j'improvisais un peu l'écriture au fil des pages, et il a grossi petit à petit, et mon dessin aussi a évolué, et tellement qu'à la fin, j'étais obligé de reprendre ce que j'avais fait pour le recommencer, et il y a eu plusieurs faux départs et redémarrages, donc ça, effectivement, ça a pris quelques années.
Ça se voit parce que l'album est très cohérent, il tient vraiment la route du début à la fin. Enfin, moi, je trouvais l'écriture très 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 mature, justement. On sent qu'il y a quand on voit premier album, on s'attend pas à avoir autant de maturité dans un album. C'est ce que j'ai trouvé en tout cas.
D'accord, bah merci.
Bon, allez, on va arrêter les compliments. C'est la crise de la bande dessinée. Enfin, tout le monde le dit. Vous le ressentez, vous, chez Tanibis, en tant que petite structure?
Alors, tout ça, il vaudrait mieux en parler à Claude, parce que moi, je suis assez déconnecté. Économiquement, je ne sais pas comment situer et analyser. Par contre, au niveau de la profusion des titres, c'est clair qu'il y en a beaucoup. Certains disent qu'on est un peu inondé. On peut aussi le voir comme un âge d'or, parce que je trouve qu'il y a énormément de titres et de variétés sur les tables des libraires ou ailleurs, en salon, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est assez vivant. Donc moi, je trouve ça plutôt excitant, enthousiaste pour l'instant. Après, économiquement, ça a peut-être des conséquences un peu plus critiques, je sais pas.
Tu vis de la bande dessinée ou t'as un autre boulot à côté ?
Non, je vis pas de la bande dessinée. Bon, déjà parce que c'est un premier album et que bon, bah, il faudrait voir comment il se vend pour envisager d'en dégager quelque chose. Mais de toute façon, c'était pas le but. Non, moi, j'ai un métier à côté. Je suis graphiste et j'en vis. C'est un métier alimentaire. Je bricole et ça me laisse un peu le temps, pas assez malheureusement, mais ça me laisse un peu de temps pour faire de la bande dessinée. Je tiens pas à faire de la BD un métier, justement pour pas avoir de contraintes, ni de temps, ni de quoi que ce soit. C'est un peu mon terrain de récréation gardé, mais je tiens pas forcément à essayer d'en vivre. Je pense que de toute façon, ça serait très très dur. Donc,
t'as des projets de BD, une autre, aussi bien?
Alors aussi bien, c'est le problème, mais non. Ben, j'aimerais... Oui, là, j'ai très envie. Et normalement, j'ai du temps pour en faire, mais j'avoue que je bute un petit peu. J'ai des projets, mais j'ai pas envie de les aborder de la même manière que le cosmonaute, c'est-à-dire, en gros, d'improviser le scénario au fur et à mesure. Là, j'aimerais partir un petit peu plus sur deux mois, sur une histoire un minimum plus campée dès le départ, et travailler un petit peu, ce qui, à mon sens, fait un peu défaut au livre, un petit peu plus de psychologie dans les personnages, éventuellement. Mais c'est vraiment pas mûr, et ça risque de bouger encore pas mal... Voilà.
Ok, bah, merci Aurélien, c'était un plaisir.
Bah, merci à toi.
Une dernière chose, oui, j'ai oublié, ton dernier coup de cœur en bande dessinée que tu as lu, ça a été quoi? Qu'est-ce qui t'a fait waouh?
Alors c'est pas une nouveauté, c'est un livre qu'on m'a prêté, c'est un livre de David Lafame qui s'appelle Je crois Straight Bullet. Et c'est bon, j'ai pas encore tout lu parce que je crois qu'il y a 8 numéros et moi j'ai lu pour l'instant que les deux premiers et ça m'a bien scotché. Ça fait longtemps en fait que j'avais pas lu une bande dessinée qui m'ait fait autant d'effet. Il y a vraiment un plaisir de lecture très fort. C'est bon, je vais pas me risquer à le présenter, mais c'est assez noir. Mais il y a une écriture vraiment ciselée, enfin un sens du suspense, du découpage qui est assez impressionnant. Je trouve ça vraiment très très bien raconté, très bien dessiné, très prenant, très intelligent.
C'est du thriller, c'est ça? C'est du polar noir? Je l'ai pas lu en fait.
Oui, ça serait, je pense qu'on peut dire ça comme ça. C'est une sorte de portrait de plusieurs personnages. Bon, là où j'en suis. Et ça va se recouper petit à petit. Et ça, c'est assez violent, assez glauque aussi. Mais sans complaisance. C'est voilà, une sorte de portrait de losers qui ont mal tourné. Et qui sont soit en cavale, soit en pleine chute libre. Soit voilà, mais... Bon, j'aurais vraiment du mal à expliquer mieux que ça, parce que je suis pas très bien un bon raconteur là-dessus, mais c'est vraiment une bande dessinée qui vaut le coup d'œil, voilà.
Après une matinée plutôt tranquille, surtout où j'ai fait cette upload qui a enfin marché, où j'ai pu faire mon article, donc vous avez pu écouter l'émission précédente, donc j'ai rejoint Jean-Lô du podcast Comic City, un spécialiste ex-comics. Salut Jean-Lô!
Bonjour les One Eye Clubbers.
Les One Eye Clubbers, ça c'est pas mal ça. Et là on est en train de se rendre à un rendez-vous avec Stan Sakai. Jean-Lô m'a aidé à composer mon interview en anglais. Elle sera peut-être dans un meilleur anglais que celle de Jason Dittle. Mais vous ne l'entendrez pas maintenant, mais sans doute pour la splash page qu'on va faire sur Usagi Yojimbo, parce que Usagi Yojimbo, c'est bien. On a fait aussi un petit tour à l'expo sur la bande dessinée taïwanaise, que j'ai trouvé vachement intéressante. C'est très très varié, beaucoup de styles très différents. Ils ont su se démarquer des influences japonaises qui les avaient envahis pendant quelques années, et on retrouve des trucs vraiment très très sympathiques. Et toi, qu'est-ce que t'as fait alors de ton Angoulême? T'as vu quelques trucs sympas depuis que t'es là?
Bah écoute, moi je suis arrivé hier, donc jeudi, sur le festival, et on a commencé tout de suite avec l'exposition Art Spiegelman qui était très intéressante. Et puis le petit musée privé d'Art Spiegelman, où là il retrace un peu plus l'histoire des comics américains, des débuts jusqu'à aujourd'hui, avec les premiers comic strips, ensuite aussi l'indé, il y a tout ce qui est général, il a présenté beaucoup de planches qui viennent de diverses collections. D'œuvres de maître, donc c'était vraiment très intéressant, je la recommande à tout le monde.
Il va falloir que j'aille y faire un tour entre deux interviews. Voilà, bon bah on poursuit notre route à l'assaut de Stan Sakai. Je suis avec Émile Bravo, l'auteur des épatantes aventures de Gilles. J'ai envie de dire formidable à chaque fois, je sais pas pourquoi. De Jules, en plus Gilles. Oh, ça y est, ça commence super mal. Bon, je vais me cacher. Qui s'est beaucoup fait remarquer pour Journal d'un ingénu aussi, une aventure de Spirou et Fantasio par, et Boucle d'or et les 7 ours nains que moi j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime beaucoup la tête des ours nains en fait. Bonjour.
Bonjour.
Dans ta production de bande dessinée, il y a quand même beaucoup de bande dessinée jeunesse. Pourquoi est-ce que tu as un attachement particulier à la BD jeunesse? C'est quelque chose qui te parle vraiment?
La BD jeunesse, moi je suis venu à la bande dessinée par la bande dessinée jeunesse parce que c'est ce que je lisais quand j'étais petit, donc voilà, c'est ce que j'ai même commencé à... C'est ce qu'on me lisait même avant que je sache lire, hein, donc voilà, quoi. Moi je trouvais... Je pense que ça m'a formé, ça m'a beaucoup aidé de lire de la bande dessinée quand j'étais enfant, et ça m'a appris énormément de choses, et voilà, de manière très ludique, donc voilà, je pense que c'est l'intérêt de la bande dessinée, et il est là. et que si ça a marché pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pour d'autres enfants, quoi. Donc voilà.
T'as pas eu envie de faire des trucs plus adultes, plus matures? Déjà dans le journal d'un ingénu, t'étais un peu entre les deux tons.
Mais alors j'aimerais bien qu'on m'explique ce que ça veut dire en fait de la bande dessinée adulte, parce que moi j'ai ma définition, mais j'aimerais bien connaître la tienne.
Ah, on va dire mature. Voilà, c'est vrai que des bandes dessinées adultes, c'est souvent, ça fait souvent pornographique derrière. Une bande dessinée mature qui n'est pas forcément dédiée à un public enfant.
Oui, mais tu prends un truc comme Tintin, c'est quelque chose de très mature. Hein. Moi, je relis encore des Tintins de temps en temps. Encore une fois, moi, je pense que la véritable bande dessinée adulte, en fait, est lisible par les enfants. De la même façon que les classiques de littérature, en fait, les enfants, on commence à les lire, du moins, on nous les fait lire, en fait, à partir de la sixième. Donc, il n'y a aucune raison que ce soit la même chose, que ce soit différent, en fait, pour la bande dessinée. Et voilà, quoi. Je pense que tout ce qu'on, souvent, enfin, on met en avant comme étant de la bande dessinée adulte, ce n'est pas de la bande dessinée pour adulte, c'est une bande dessinée pour adolescents, c'est différent. Et voilà, les aspects, enfin là, tout ce qui est violence, tout ce qui est sexe, tout ça, enfin non. Moi je pense que voilà quoi, que une bonne histoire pour adultes est lisible par les enfants et vice versa, une bonne histoire pour les enfants est lisible par les adultes. Voilà.
Ok, tu crois que le genre est en train de se développer? On voit de plus en plus de bandes dessinées jeunesse, enfin pas que des albums, avant c'était beaucoup les albums illustrés, on voit vraiment de plus en plus de la BD. Tu crois que ça se développe? Est-ce que tu penses qu'il y a une raison particulière à ça?
Oui, alors déjà oui, parce que c'est de plus en plus compris en fait cette idée-là. Bah, c'est normal, ça existait déjà, quoi. Enfin, à travers des gens comme voilà Hergé, Franquin, Peillot. Enfin, il y a Goscinny, quoi. Goscinny, c'est quand même énorme. C'est quand même, moi je dis souvent, c'est le super écrivain de la bande dessinée, quoi. Et bon, voilà, du Goscinny, c'est lisible par les adultes. On en redemande, quoi. Et ça se développe, oui. Je sais pas. Enfin, moi je pense que ça se développe. J'ai l'impression, hein, je voudrais pas dire de bêtises, mais par exemple, en fait, y a plus en plus de femmes qui viennent à la bande dessinée, en fait, et à travers elles, en fait, elles ont bien compris ce truc-là et elles le développent particulièrement, beaucoup plus que les garçons, en fait. Donc voilà, quoi. C'est moi, je trouve que ça se développe à travers elles, surtout.
Les aventures de Jules, donc il y a un côté très éducatif et très revendicatif. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est nécessaire dans la bande dessinée jeunesse? Et qu'il faut développer pour les enfants.
Alors bon, j'aime pas trop le terme revendicatif. Moi, j'ai l'impression de je revendique rien. J'ai l'impression que, parce que là, vu sous cet angle, j'ai l'impression que je fais en fait, j'endoctrine en fait les gens, pas du tout. Donc, moi, comme je disais, en fait, c'est moi, je pense que bah, quand on est gamin, on est très lucide, donc on peut leur parler de tout et on se rend compte en fait tout petit que bah, que ça va pas, que le monde est absurde, est injuste. On le sent bien. Enfin, l'injustice, c'est quelque chose que quand on est gamin, on est très sensible à ça et on voit bien que ça va pas, quoi. Donc à partir de là, il faut leur expliquer très tôt le pourquoi. Et ce que moi je dis à travers mes histoires, dans mes histoires il n'y a pas de méchants, il y a des gens un peu idiots, un peu ignorants, mais ils ne sont pas méchants, ils sont comme ça de fait, ben, c'est un petit peu ce qui se passe dans notre monde, quoi. Et moi je trouve que c'est bien de leur inculquer ces choses-là parce que ça leur donne des armes pour le comprendre, ce monde, et puis pour ensuite s'en dépêtrer un petit peu. Moi je dis souvent que j'essaye de renouer avec l'utilité du conte. Avant, les contes, en fait, on racontait des contes pour enfants, c'est des contes qui étaient très très durs, parce que la vie était dure. Quand on racontait des histoires comme des petits poussets ou des parents abandonnent des enfants, ça aujourd'hui, on ne pourrait pas présenter ça à une maison d'édition, parce qu'on les préserve trop, les enfants. Et non, au contraire, si on en parlait à l'époque, c'était pour les préparer, justement, à la dureté. Et ben, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le monde est dur, donc il faut leur expliquer le pourquoi il est dur et voilà, les préparer de la même manière.
Il y a pas mal de temps entre les albums de Jules. Tu attends d'avoir une bonne histoire pour y aller, ou enfin il faut que l'histoire arrive avant que tu te lances, ou bien tu cherches activement une histoire jusqu'à ce que tu puisses te démarrer.
Bah en fait moi ce qui est le plus important pour moi c'est l'histoire, donc tant que je l'ai pas en tête je me lance pas, mais j'ai besoin en fait d'avoir tous les éléments en main en fait pour construire cette petite horlogerie qu'un scénario. Et oui, mais voilà quoi. J'attends aussi d'avoir une espèce de déclic, c'est-à-dire en fait moi je pense avoir gardé enfin du moins préserver mon âme d'enfant, on va dire, et du coup en fait les choses qui me choquent ou qui me voilà, où je parlais d'injustice là, tout à l'heure, bah c'est ça, tout ce qui me choque ou tout ce que je trouve vraiment troublant qui m'aurait troublé enfant, en fait j'essaye d'en parler maintenant en tant qu'adulte, de comprendre et d'en parler en tant qu'adulte, et c'est ça en fait qui fait la base de mes histoires, c'est le côté un petit peu j'espère qu'après avoir lu un Jules, un enfant se dise et appris réellement quelque chose, se dise, ils se disent ah, c'est pas bête ce truc, je sais une petite chose. Et en plus, s'il peut partager ça avec ses parents, hein, parce que bien souvent les parents sont, bah, connaissent pas non plus ces sujets, parce que moi-même je les connaissais pas au début, quoi, avant de me lancer dans l'histoire, hein, moi je me documente, enfin j'essaye de savoir de quoi je parle exactement. Et ben voilà quoi, c'est des choses qui se partagent en famille, et ça construit aussi un enfant, et je trouve ça très très important en fait, d'avoir en fait gardé une complicité avec ses parents.
Au niveau de la construction de l'histoire, tu redéveloppes vraiment toute ton histoire avec des éléments fixes, à te dire ça va essayer de faire sur certaines pages, ou est-ce que tu sais à peu près où tu vas et tu te lances au feeling, quitte à recorriger derrière ?
Oui, je sais à peu près où je vais, mais ce qu'il faut comprendre, à mon avis, c'est qu'il faut jamais en fait perdre le lecteur. C'est-à-dire qu'il faut toujours se mettre à sa place. Moi, quand j'écris mon histoire, je me dis je suis aussi le lecteur en même temps. Donc, il faut que les choses soient claires, et j'ai besoin qu'on m'entraîne en fait dans une histoire en me prenant par la main. Et ça, c'est primordial. Donc, je me remets toujours en question en fait par rapport à ce que je raconte, pour ne pas qu'ils perdent le fil, quoi, de l'histoire. Très important.
Ouais, parce que là je vois par rapport à la pagination par exemple, c'est des albums qui ont quand même pas mal de pages pour ce format là en général, c'est quand même plus dans les 44 pages. C'est ton histoire qui a imposé la pagination, ou tu t'es imposé un carcan?
Bah justement, en fait, là dans le dernier album, je me suis libéré de ça. Jusqu'à présent, j'essayais de faire des histoires de 54 pages pour un peu des raisons techniques, bon, qui justifient pas vraiment. Mais depuis que au bout d'un moment, enfin, on dit à son éditeur, bon, maintenant ça suffit. Si on voulait des bonnes histoires, faut qu'on se donne les moyens. Et pour se donner les moyens, il nous faut des pages. On demande pas à un écrivain en fait combien de pages son roman va faire, quoi. Il fera le nombre de pages qu'il fera. Et puis en dessiner, c'est exactement la même chose, quoi. C'est de l'écriture graphique, comme je dis tout le temps. Donc voilà, il nous faut des pages pour raconter des histoires, et c'est tout. Ça, c'est à l'éditeur de le comprendre.
L'énorme succès du journal d'un ingénu, ça t'a donné de la liberté par rapport aux éditeurs, par rapport à leur dire je veux faire ça et...
Bon, j'ai toujours eu pas mal de liberté, hein. On m'a jamais embêté. Ils ont toujours été très gentils. Ils voient que peut-être que les éditeurs voient bien que j'ai envie de dire quelque chose. Donc voilà. Mais le journal d'ingénu, en fait, m'a permis en fait de donner une visibilité à Jules, en fait, qui restait, ça restait assez confidentiel jusqu'à présent. Ouais, ça continue à l'être d'ailleurs. Voilà, maintenant c'est un petit peu plus connu grâce à ces gens qui ne connaissaient pas et qui ont lu le journal ingénu et qui se sont ensuite penchés un petit peu sur mon travail. Et donc voilà quoi. Donc c'est le côté positif.
T'as des projets, t'as déjà une idée pour la suite, peut-être un Jules ou autre chose?
Ben là je sors d'un Jules, alors il faut laisser reposer tout ça parce que déjà moi je pense qu'un auteur raconte toujours la même chose. Alors si on enchaîne les albums, à mon avis on risque de se répéter un peu trop. Donc il faut laisser mûrir un peu, et donc moi je continue à faire de la jeunesse. J'ai travaillé pour Le Seuil, j'ai fait des petites histoires pour les enfants qui s'appellent les Oursonins dont tu parlais tout à l'heure. Là je fais j'ai illustré une petite nouvelle de Heinrich Böll en fait, qui va paraître chez Petit Glénat. C'est pareil, c'est une petite leçon de vie comme ça qu'il avait écrite, et ça nous permet de souffler un petit peu, de faire ce genre d'albums qui sont faits assez rapidement et qui sont autre chose, qui sont moins lourds en fait que de la bande dessinée. Et puis après il faut que je fasse un Spirou, quoi. La suite du journal ingénu, parce que je pense qu'il y a un truc à dire en fait, encore en fait dans cette histoire.
Ça fait super plaisir, ce que j'ai vraiment adoré. T'as un style justement qui est très, naïf, qui fait beaucoup penser à Hergé. Mettre ce style-là dans du Spirou, c'est une sorte de pied de nez à la guéguerre qu'il y a entre Spirou et Tintin.
Ouais, peut-être. Mais c'est surtout qu'en fait, moi, le graphisme, comme je dis souvent, pour moi, c'est juste un vecteur, en fait. C'est une écriture graphique, donc en fait, j'utilise des codes très très simples, qui sont les codes franco-belges, que tout le monde connaît, parce que tout le monde a déjà ouvert un Tintin. Donc voilà, je me sers simplement de ces codes-là pour raconter mes histoires. J'ai vraiment pas d'avis, en fait, sur toute une évolution du style graphique. Moi, je vois ça tout simplement, quoi. C'est comme je dis souvent, j'essaye de faire une écriture graphique, d'avoir une écriture graphique accessible, et c'est ça qui m'importe, puisque c'est grâce à cette écriture simple et lisible que je vais raconter une histoire. Donc voilà, j'utilise des codes que tout le monde connaît.
Il y a un site de fans super actif sur ton travail. Est-ce que tu en as entendu parler ? Est-ce que t'as de... Il y a un site de fans très actif sur ton travail. Est-ce que tu l'as déjà vu ? Tu en as entendu parler de ce site web ? De tout ce que tu fais, tout ce qui est en rapport avec ton travail, il en parle, les traductions, tes passages dans des festivals.
Oui, oui, c'est un super fan. Je l'ai rencontré une fois. Mais je... Bon, pour moi, c'est son blog à lui, quoi. Moi, je lui dis, bah, tu fais comme tu veux. Si ça te passionne de faire ça, vas-y. Mais moi, je n'interviens pas du tout. C'est son travail à lui. C'est pas mon blog du tout, quoi. Ça me correspond pas de façon de me mettre en avant comme ça.
Voilà. Alors, nous, dans notre émission, en fait, l'idée, c'est qu'on parle des BD qu'on aime. C'est quoi ton dernier coup de cœur en bande dessinée ?
Mon dernier coup de cœur, c'est une bande dessinée en fait qui est sortie là, qui vient de sortir, qui a été dessinée et écrite par Nejib Belhaj-Kassem et qui s'appelle Adon Hill. Et c'est fantastique. C'est sur l'histoire de Bowie. En fait, c'est comment David est devenu David Bowie. Et c'est voilà, c'est tout le management qu'il a subi en fait pour devenir ce personnage. Et c'est écrit d'une manière je sais pas, c'est d'une clarté. J'arrête pas de crier sur tous les toits que c'est fantastique et graphiquement c'est hyper beau. Ça sort de tous les codes bande dessinée qu'on connaît. C'est plus en fait des codes en fait du dessin. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vrai, que c'est un petit côté Steinberg, mais bah, tant mieux, bah, c'est super parce qu'il le maîtrise parfaitement ces codes-là. Donc il faut pas s'en priver. Voilà.
Bah, merci beaucoup, Émile.
Merci à vous.
Un petit tour dans la salle presse, c'est impossible de voir Hervé Brujas et Ronan de Toulouat, les auteurs de Bloc 109. Bon, ben on a dû se rater, c'est aussi ça Angoulême. C'est se retrouver dans une salle de presse à chercher des gens qu'on n'a jamais vus et qu'on se rende compte qu'on n'a pas leur numéro et aucun moyen de les joindre. C'est magique, la BD. Je suis avec Chris et Sylvain Ricard. Bonjour Chris d'abord.
Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Qui vont nous parler de leur projet La Revue Dessinée, qui est une revue de bande dessinée de reportage publiée d'abord en numérique et ensuite en papier. Est-ce que vous pouvez un peu décrire le projet pour commencer ?
Oui, alors c'est un projet sur lequel on travaille depuis plusieurs mois déjà. Alors lorsqu'on parle de revue numérique, de BD reportage, c'est un peu réducteur parce qu'on a le sentiment que, on va dire, ça pourrait ressembler à ce que fait Josaco, par exemple, uniquement. En réalité, c'est documentaire et reportage de façon extrêmement large, c'est-à-dire qu'il y aurait des documentaires historiques, donc ce qui a été assez peu fouillé, malgré tout, en bande dessinée. On pourrait citer Les Meilleurs Ennemis, par exemple, de David B., pour donner un exemple. Des documentaires scientifiques, reportages, comme peut faire, effectivement, Josaco ou Guy Delisle, par exemple. Chronique, fait de société, la plus proche de ce que peut faire Davodo, mais également fait divers. On aimerait bien vraiment développer le fait divers en bande dessinée, tout ce qui peut être histoire vécue. Alors, voilà, plutôt mise en récit cette fois. Là, on serait plus proche de livres comme Un homme est mort, par exemple, que j'avais pu faire avec Davodo. Et également biopic, c'est-à-dire une biographie d'hommes illustres ou inconnus, mais qui ont eu à un moment donné une valeur un peu dans l'histoire ou dans notre temps présent. Et ça n'empêche pas également de le traiter aussi avec humour, c'est-à-dire qu'on aimerait bien avoir le travail d'auteurs comme Marion Montaigne ou Hervé Bourri sur Le Petit Livre de la Cinquième, par exemple, rentre tout à fait aussi dans le cadre de ce qu'on aimerait faire dans cette revue. Ensuite, l'idée, ça serait une revue trimestrielle, 150-200 pages à peu près, qui serait effectivement déclinée en papier une fois par an à la fin, et dans chaque revue il y aurait 4 à 8 reportages par tranche de 20, 30, 40 pages, certains en format one-shot, d'autres en format à suivre, idéalement sur un an, et des rubriques plus légères, justement de un plus petit nombre de pages là-dessus. Et la volonté est que ce soit entièrement géré par des auteurs, nous qui la créons, et surtout que nous payons correctement, voire très correctement, les auteurs pour valoriser vraiment le numérique, qui aujourd'hui est valorisé tout simplement à 0€ par ailleurs chez les éditeurs. Voilà, en résumé, elle serait vendue idéalement 5,99€ la revue. Voilà.
C'est super complet, t'as quelque chose à rajouter, Sylvain ?
Non, j'ai rien à ajouter, c'est parfait.
Tu as bien travaillé ton texte.
C'est surtout que depuis 48 heures, on n'arrête pas de répondre à des interviews. Donc à force, j'ai su aller à peu près à l'essentiel. Mais c'est surtout que ça fait donc du temps qu'on travaille dessus et qu'on a eu le temps d'arrêter vraiment ce qu'on avait envie de faire avec cette revue. Ça ne veut pas dire que le champ des possibles est encore très ouvert. Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié aussi le désir qu'on a de promouvoir les rencontres entre auteurs de bande dessinée et romanciers, photographes et journalistes, évidemment. Ça resterait de la bande dessinée. On n'est pas là pour faire du 21 bis ou autre. mais on sait qu'il y a un vrai regard curieux de la part de ces auteurs vers la bande dessinée, et que les auteurs de bande dessinée eux-mêmes s'inspirent souvent des travaux de tels reporters, de tels photographes ou de tels romanciers. Donc l'idée, ça serait de créer des passerelles et de créer des ouvrages communs, des reportages, des documentaires communs entre ces catégories d'auteurs très différentes qui se connaissent souvent assez peu entre eux.
Quand tu dis numérique, au niveau de la diffusion, tu penses à quoi ?
En termes de diffusion, c'est-à-dire ?
Comment est-ce que on y accède ? Comment est-ce qu'on l'achète ? Sur quelle plateforme ? Quel format ça aurait ? Sylvain ?
A priori, ce sera une application qui va être développée pour Internet et pour les supports, les tablettes graphiques de type iPad, tablettes Android, des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une application qu'on achète, on télécharge finalement la revue. À partir soit du site internet larevuedessinée.fr, soit à partir d'une application iPad directement développée pour ce matériel.
Et donc ça demande quand même d'avoir un développement d'une application spécifique pour les différentes plateformes qui existent. C'est tout un travail d'informatique, pas forcément un travail d'auteur à la base. Vous avez pris des contacts sur des entreprises externes ou des connaissances pour faire ce travail-là?
Oui, bien sûr, on est en train de discuter avec un certain nombre de personnes qui sont capables de développer ces outils, les outils pour développer les applications sur Internet, sur iPad et sur les tablettes Android, en anglais et en français, dès le départ. Et voilà, c'est évidemment des discussions qu'on a et qui ne sont pas des discussions qui se tiennent en 5 minutes, donc c'est en chemin, on est en train de parler avec ces gens-là.
Du fait que ce soit numérique, au niveau de l'interactivité, du plus que peut apporter le numérique, comment est-ce que vous voyez la chose ?
Sans en faire de trop malgré tout, parce qu'on a eu souvent le sentiment que quand le numérique a commencé à se développer, on allait rajouter plein de choses, des sons, du mouvement et tout ça, super, on allait faire du dessin animé quoi. Et ça n'apportait absolument rien à la bande dessinée. La bande dessinée, elle a un langage, elle a son langage, elle a son histoire, elle a sa grammaire. Et le numérique n'a pas à chambouler tout ça. Par contre, il y a ce qu'on peut appeler le livre enrichi, ce qui permet à côté de la bande dessinée de rajouter des liens qui sont en rapport avec le documentaire, qui peut rajouter des éléments sur l'auteur, sur le travail, par exemple, sur le making-of du documentaire. Tout ça peut être apporté en bonus au documentaire dans la revue. Et ça, c'est de vrais outils qu'on a envie de fouiller aussi. Et ça ne va pas se faire en un jour. Je pense qu'au fur et à mesure, chaque numéro, on améliorerait tout ça. Mais c'est vrai que ça ouvre aussi le champ narratif de tout ce qu'on peut apporter, tout ce qu'on peut faire en plus du papier, ça fait partie des aspects les plus excitants, les plus intéressants. Ouais.
Et donc vous restez vraiment sur le format de la page classique, vous pensez pas à des systèmes comme la page infinie, que vous pouvez parler de Scott McCloud?
Non, parce que malgré tout, les auteurs continuent à réfléchir en page, tout bêtement, parce que nous, on n'a pas du tout envie de tuer le papier. Hein. D'abord, il y aurait ce recueil papier, et l'idée est de demander aux auteurs de publier chez nous dans la revue numérique, mais après, ils sont entièrement libres d'aller éditer, évidemment, leur album en papier, ce qui permet en plus d'avoir vraiment des sources de revenus aussi plus variées, plus confortables pour les auteurs. Donc, il faut que ça puisse être transposé en livre aussi relativement facilement. Alors, on partirait sans doute sur des pages A5, en format à l'italienne, sur un iPad mis à l'horizontale, mais tout ça n'est pas encore totalement arrêté, parce qu'on n'est pas à l'abri de projets extrêmement excitants qui ne sont pas du tout prévus ou faits pour du A5 par exemple. Donc voilà, ça fait partie aussi des choses qu'on doit développer, lever, voir ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible. Mais ce n'est pas un blog par exemple, ça reste un ouvrage, des ouvrages de bande dessinée mais mis en numérique. Voilà.
Vous comptez ouvrir aux lecteurs un lieu de dialogue, profiter de ce fait qu'il y ait le numérique pour pouvoir permettre aux gens d'essayer de laisser des commentaires, dire ce qu'ils en ont pensé, essayer peut-être aller plus loin, proposer des liens supplémentaires s'ils en ont?
Ça sera envisageable uniquement sur le site internet, effectivement, parce que sur le site internet, il y aura une partie qui sera une partie publique et une partie effectivement où il faudra acheter la revue pour y avoir accès. Mais sur la partie publique, c'est tout à fait envisageable qu'il y ait un espace dédié aux lecteurs, absolument.
Là, vous en êtes où dans l'avancée du projet? Vous commencez à communiquer autour, vous avez chopé tous les financements, vous avez déjà des textes, des auteurs, enfin des DVD prêtes. Où en est le projet aussi du logiciel? En gros, est-ce que vous avez une deadline?
On est encore au début de l'aventure, c'est-à-dire qu'on a fait un communiqué de presse pour annoncer nos intentions. On a contacté énormément d'auteurs qui montrent un certain enthousiasme, dont certains ont déjà commencé à nous proposer des projets. Et on est en discussion, comme je disais, pour le développement de la plateforme technique et un tour de table pour la création de la société, tout simplement, qui est en cours.
Par rapport à ce qui est proposé à l'heure actuelle, justement, en BD numérique, qu'est-ce que vous pensez de l'offre actuelle au niveau des formats, au niveau des prix aussi, de ce qu'on peut trouver à l'heure actuelle?
Voilà, je vais être un petit peu radical. Du côté des éditeurs, rien, hein, à part transposer purement et simplement les albums papier sous format quasi PDF, la plupart du temps en lecture écran, et en plus à un prix souvent encore prohibitif. Donc là-dessus, pour l'instant, c'est pas qu'on en attend rien, mais en tout cas, on n'a pas vu grand-chose venir depuis des années. Et c'est aussi ce qui a agacé un peu les auteurs, qui confient quand même tous leurs droits numériques aux éditeurs, sans que pour l'instant ils soient valorisés, utilisés réellement ou autre. Alors après, les premières initiatives d'auteurs, elles fleurissent depuis un moment. L'expérience la plus connue, c'est celle de Thomas Kaden et des autres gens, qui est très différente de la nôtre, mais qui a montré quand même que il était possible de faire abonner des gens tous les mois, et un nombre conséquent quand même de lecteurs, de payer aussi un minimum les auteurs, sans doute pas suffisamment, etc. et tout ça, mais ça a permis aussi à beaucoup de jeunes auteurs de démarrer, de faire leurs armes dedans. Les auteurs sont beaucoup emparés de ce projet-là, donc il a commencé quand même à ouvrir la voie, il fallait oser se lancer. Et à côté de ça, il y a d'autres projets aussi similaires aux nôtres, qui ne sont pas juste sur l'aspect documentaire comme nous. Il y a un autre projet d'autres auteurs qui sera plutôt tourné vers la fiction, le projet Professeur Cyclope, qui est mené par Gwen de Bonneval, Cyril Pedrosa, Fabien Vellman, Bruno Etancrel. Donc tout ça risque, il y a d'autres projets aussi de revue, tout ça risque de faire aussi à un moment donné un mouvement de masse, dans lequel évidemment on va essayer de s'entraider autant que possible, puisqu'on retrouve là tous les auteurs qui, depuis quelques années, essayent aussi de faire avancer les choses dans la bande dessinée. La moitié des fondateurs du syndicat des auteurs de bande dessinée, par exemple, se retrouvent dans ces projets de revue-là. C'est pas un hasard non plus.
C'est un moyen de se démarquer des éditeurs, de pouvoir avoir plus de contrôle sur ce que vous faites, d'avoir aussi un retour financier peut-être plus conséquent aussi.
On cherche pas du tout à se montrer contre les éditeurs ou autres, mais à un moment donné, si les choses avancent pas de ce point de vue-là, eh bien, il faut. Les grandes avancées dans la bande dessinée sont toujours venues des auteurs. Il n'y a pas besoin de remonter très loin. Tout ce qu'aujourd'hui on appelle le roman graphique et qui est l'essentiel de la nouveauté de la bande dessinée depuis une quinzaine d'années, sont les auteurs qui l'ont amené par l'association et tous les autres éditeurs qui ont suivi ce chemin-là. Il y a eu Pilote en son temps, Metal Hurlant aussi en son temps, etc. Donc, à mon avis, on va assister un peu à la même chose. On est à un moment donné, la bande dessinée, elle se cherche à nouveau, elle cherche comment être la bande dessinée du 21e siècle quelque part, et pour l'instant, à mon avis, les initiatives vont venir des auteurs, et après, une fois de plus, les éditeurs accompagneront le mouvement. Tout ça, c'est relativement normal. Une structure éditoriale, c'est lourd à gérer, ça n'a pas dédié spécialement à ça, il faut du temps, de la volonté, ce qu'ont souvent un peu plus les auteurs. Ils n'ont pas toujours le temps, mais en tout cas, ils ont souvent plus de volonté pour aller explorer ces nouveaux chemins-là. Voilà.
Au niveau de la version papier, tout l'enregistrement que vous avez prévu sur la version numérique, il y aura aussi du bonus autour, ou vous préférez réserver ça au côté numérique parce que c'est plus approprié ?
Il y a un certain nombre de métadonnées qu'on ne pourra pas mettre dans la revue papier. Hein, tout ce qui est du son, tout ce qui est l'image, on ne pourra pas. Par contre, il y a un certain nombre de références qui pourraient être associées à chacun des reportages, des références bibliographiques, des références sur l'auteur, des références sur les livres de référence, justement, qui pourront être ajoutés, comme le fait 21 d'ailleurs dans ses reportages, et où à la fin il y a systématiquement un certain nombre de références qui sont données. Voilà, c'est tout à fait envisageable, absolument.
Ok, merci. Dernière question, parce que nous, dans notre émission, on aime bien demander aux auteurs et ce qu'ils lisent. C'est quoi votre dernière découverte BD, Sylvain?
La dernière découverte bande dessinée? Les derniers, j'en ai lu un qui était très bien. C'est La Chambre de Lautréamont, que j'ai beaucoup aimé. Et j'en ai lu deux autres qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. C'est le Tu mourras moins bête de Marion Montaigne et Le petit livre de la Ve République de Hervé Bourris. Voilà, c'est les trois derniers livres que j'ai vraiment beaucoup aimés.
Toi, Chris?
Ouais, bah, tu me grilles pour Marion Montaigne. C'est vrai que Marion Montaigne, bon, c'est pas nouveau, hein. Elle me fait rire depuis déjà des années, mais là, je trouve qu'elle atteint. Je suis embêté par Claire Wendling, il faut le dire au lecteur. Et donc, c'est vraiment une des auteurs. Moi, je rêverais qu'elle soit dans la revue avec nous. Et évidemment, on va la draguer comme des morts de faim pendant des mois pour qu'elle accède, parce qu'elle arrive à amener plein de choses, plein de connaissances au lecteur, malgré tout, pour briller en société, peut-être totalement inutile, mais et en même temps, le fait de façon super drôle, et ça montre aussi que le reportage et le documentaire peut être autre chose qu'un truc un peu chiant ou morbide sur comment ça va mal dans le monde. Voilà.
Et donc là, je finis ma bière au Latitude Pub, et franchement, scénario, c'est une honte, je n'ai pas eu de sous-boc. Je suis fortement déçu. Et ben, puisqu'on parlait de la chambre de Lautréamont, et ben, je vais aller interviewer Edith. C'est parti. Je suis avec Edith Écorcal et nous allons parler de la chambre de Lautréamont. Bonjour Edith.
Bonjour.
Bonjour Écorcal.
Bonjour.
Donc je vais devoir balader le micro d'un côté à l'autre de la table. Ça va être assez rigolo. Donc la chambre de Lautréamont qui vient de sortir chez Futuropolis est une bande dessinée qui traite pas mal de la mystification en fait. C'est-à-dire que on a... c'est basé beaucoup sur les comment sur le champ de enfin inspiré du champ de Maldoror, comme quoi l'auteur maudit aurait une chambre qui serait hantée par sa présence. Je voulais commencer en parlant à Edith au niveau de du dessin. Donc on est dans de la bande dessinée d'époque. Dans Basile et Victoria, on était aussi dans une bande dessinée d'époque. C'est un choix de faire ce genre de BD là. C'est un goût pour les costumes, pour un peu la recherche autour.
Absolument, c'est une époque que j'aime bien dessiner. Pas bon, peut-être il y a les costumes, mais en fait je me suis posé la question en me disant mais pourquoi à chaque fois je me retrouve entre Les Hauts d'Hurlevent, Basilevic, à chaque fois je me retrouve, sauf pour le trio Bonaventure, mais sinon je me retrouve toujours dans ce fichu 19e siècle. Et en fait, voir tout début du 20e avec Eugène de Tourcoing Star Trek, c'était 1900, mais c'est bon voilà, c'est quand même l'héritage du 19e. Et en fait, je crois que c'est parce que c'est une époque qui, graphiquement, comment dire, les images, l'imaginaire collectif qu'on a autour de ce siècle-là, m'inspire des, enfin, comment dire, graphiquement, ça m'inspire. Et en plus, je me rends compte que c'est une époque que je me plais à imaginer comme finalement ayant peu ou pas du tout de ligne droite. Je suis totalement allergique, enfin, je veux dire, graphiquement parlant, évidemment. Ben voilà, des décors modernes, je supporte pas dessiner des voitures, des immeubles, ça me plaît pas, ça m'emmerde. Et par contre, cette époque-là, finalement, alors que c'est totalement faux, hein, il y avait des immeubles qui étaient sûrement avec des belles lignes droites, ils connaissaient l'angle droit, il n'y a aucun problème. Sauf que moi, je me plais à l'imaginer, je veux dire, graphiquement, beaucoup plus souple, beaucoup plus... Donc du coup, c'est peut-être ça qui fait que je suis à l'aise. Et puis après, il y a, je pense qu'il y a une tonalité globale qui, pour moi, correspond aux ambiances que j'aime bien travailler en couleur. Et c'est peut-être pas forcément historiquement vérifié. C'est juste l'idée que moi, je m'en fais. Et qui, je pense, est l'idée qu'on s'en fait collectivement d'après une certaine littérature, des images, d'illustrateurs. Enfin, voilà. C'est un bagage collectif. Et voilà, moi, c'est ce que j'en ressors. Et c'est... Finalement, ça correspond à ma palette de couleurs et à ce que j'aime travailler. Je crois que je l'explique comme ça parce que, à part sinon, peut-être j'ai vécu une vie antérieure au 19e siècle. C'est possible. Mais voilà, sinon, j'ai pas d'autre explication.
Il y a un travail dans cet album, un travail graphique sur les trames, donc un travail informatique au niveau des couleurs qui est très travaillé. Pourquoi avoir utilisé cet outil, cette rame-là, plutôt que d'utiliser peut-être des couleurs plus traditionnelles, plus classiques? Ça donne une ambiance très particulière qu'on voit aussi dans les pages qui sont abîmées.
C'est, comment dire, en fait, c'est tout à fait, c'est de l'expérimentation. Quand j'ai commencé à mettre en image le scénario et les recherches que j'ai faites, finalement, j'ai fait deux, trois colorisations sur ordi, puis après j'ai commencé à faire des fonds que j'ai scannés. Enfin, moi, c'est vraiment du bidouillage. Et je me suis aperçue qu'en fait, même si ça donnait plus de travail, voilà. Par contre, je pouvais aller plus loin et faire des recherches plus poussées qu'en couleur directe. Ça ne veut pas dire que je vais toujours travailler comme ça, parce que je trouve que c'est quand même très lourd comme boulot. Et aussi, ça, ce qui était très bien pour cette histoire, mais ça nettoie le dessin, ça le rend très propre. Et ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de faire tout le temps. Mais je trouve que c'était très bien pour cette histoire-là, qui est assez complexe. Et je voulais que le dessin, du coup, soit assez clair, de manière à ce qu'il n'y ait pas, voilà, qu'on ne se perde pas non plus dans différents niveaux. Donc là, je me dis, bon, j'ai trouvé que ça allait bien, donc j'ai continué comme ça. Mais en fait, je crois que j'ai expérimenté tout le long de l'album, parce que j'ai rarement... Je bosse un peu sur ordi, mais pas à ce niveau-là. Donc j'ai appris pendant tout l'album, y compris la finalisation, pour quand je me suis aperçue qu'en fait, tout ce que j'avais fait n'était pas forcément adapté complètement à l'impression. Qu'il fallait reprendre les fichiers, tous les fichiers, parce que j'avais pas fait le... C'est pas grave, c'est du boulot, mais moi j'avance en même temps, j'apprends, quoi. Donc je me dis, ben voilà, tout ça je l'ai appris, maintenant je le sais. Et comme j'ai pas tellement envie de me... Enfin, moi j'ai envie de marcher avec les outils tels quand ils arrivent, après je prends ce que j'ai envie de prendre, je laisse ce que j'ai envie de laisser. Mais j'ai pas envie de me dire, non, ça c'est pas pour moi, l'ordi, ça jamais. Enfin voilà, je pense que tous les outils sont intéressants, donc j'ai envie de les expérimenter, après je fais mon choix.
Il y a un jeu sur la mystification, là aussi, sur le scénario, sur le fait que ce soit le roman graphique qu'on ait retrouvé, avec des planches qui ont été censurées, qu'on a réussi à retrouver, qui donc sont dans un mauvais état. C'était dans ce délire d'expérimentation, ça arrivait en cours de route, ou c'était vraiment prévu dès le départ d'avoir cette idée-là, Korkal ?
Moi, je crois que si vraiment on va au départ, je crois que ça remonte sûrement... quand on a fait les aventures du peintre Gene Tourcoing Star Trek, qui n'avait que deux épisodes malheureusement, deux albums, j'avais dans un coin de la tête, je m'étais toujours dit, il y aurait une autre possibilité si on arrêtait cette série sur d'autres choses, parce que c'est vrai que moi, la sensibilité du dessin d'Edith sur le 19e, c'est vrai que ça me donne envie effectivement d'aller balader dans le 19e, parce que moi j'ai une très grande rêverie aussi sur le 19e, sur les paysages, sur les espaces, j'ai toujours rêvé sur ces vieilles photographies du 19e, des rues vides d'Alger, enfin cette espèce de grande, pour moi c'est associé vraiment énormément de souvenirs, aussi de récits qui m'étaient faits par ma grand-mère qui était en fin 19e siècle, qui me racontait des choses sur la ville dans laquelle je vivais, Montpellier, enfin qui me racontait vraiment des choses sur cette ville, et j'ai une énorme rêverie par rapport au 19e. C'est vrai que la première fois que j'ai eu Edith au téléphone, je savais son travail, sa sensualité, de son trait sur le 19e, j'ai eu immédiatement envie d'y aller, quoi, et j'avais envie de voir des paysages, de me balader dans ces paysages. Et alors là c'est vrai que après ce récit du peintre, je me dis il y a ce milieu littéraire qui serait vachement intéressant aussi à travailler. Comme ça, je ne savais pas trop au départ où je serais allé, mais j'avais ça dans un coin de ma tête. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai pensé assez rapidement à L'autre amant. Et puis sont enchaînés Rimbaud, enfin, qui est pour moi encore plus, pour moi, un personnage très important, enfin, je quitte jamais. Enfin, pour moi, Rimbaud, c'est un truc absolument capital, c'est presque une arme aujourd'hui encore. Enfin, c'est un texte qui est tellement vivant, qui est tellement... Donc, L'autre amant, c'est un peu un défi. Parce qu'est-ce qu'on a à dire sur L'autre amant, à part de citer les chants de Mal d'Aurore? On connaît très peu de choses sur L'autre amant. Donc, je me dis, une bande dessinée où il y aurait même L'autre amant dans le titre, je sais pas, ça me plaisait comme ça. Donc, c'est vraiment, au départ, c'est très basique, quoi. C'est vraiment une idée comme ça. Et puis, petit à petit, il y a eu le recoupement sur la biographie de Rimbaud, d'une conjonction de dates qui faisait que la première fugue de Rimbaud a lieu en août-septembre 70. Et que L'autre amant vit encore à Paris à cette époque-là. Il va mourir quelques années plus tard, c'est pendant le siège de Paris. Et donc cette conjonction, je me dis, tiens, il aurait pu y avoir une rencontre, quoi. Et ça a commencé un petit peu comme ça, le récit. Et après, les choses sont enchaînées. J'ai découvert les cercles utiques. Cercles utiques, pour moi, c'était très étrange. Ça m'a renvoyé aussi, je me dis, mais il y a eu la Commune quelques mois avant. Donc c'est étrange, dans un Paris, certains quartiers de Paris sont en ruine, et d'imaginer qu'il y a des jeux littéraires qui se font en même temps, qu'il y a des sortes de pré-surréalistes là qui jouent, il y a Rimbaud, Verlaine, enfin, et après on tombait aussi dans cette période assez connue de Rimbaud, de Verlaine, donc il y avait des tas d'éléments qui commençaient à se connecter, mais c'est vraiment venu assez lentement, ça s'est fait petit à petit, il n'y a pas du tout encore l'idée du récit, dans le récit, etc. Donc il y avait vraiment cette rencontre, puis comment envisager cette rencontre, et puis j'avais jamais traité de personnage historique. Et puis ce personnage de Bretagne est venu assez vite aussi. J'ai pensé au feuilletoniste, qui est peut-être aussi l'équivalent pour moi de l'auteur de bande dessinée, quoi, dans une situation par rapport à la littérature, quelque chose comme ça. Et cette conjonction de parler aussi de bande dessinée à travers aussi dans un récit où il y a un feuilletoniste et être en même temps dans l'écrit comme ça. Voilà, il y a plein de choses qui sont connectées petit à petit. Mais vraiment, c'est une longue maturation au départ et puis qui petit à petit se connecte. Et je me souviens que même le synopsis qu'on a présenté à l'éditeur, il y avait encore des tas de choses qui n'y étaient pas. comme par exemple la relation des deux frères. Ils n'étaient pas frères au départ, c'était un ami. Mais dès qu'on travaille un peu plus en profondeur le récit, quand on commence à le découper, à le développer, ben immédiatement, j'ai l'impression que ça ne marche pas, que ce soit un ami comme ça. Et le frère fait venir encore une autre type de relation. Donc tout ça, c'est plein de choses qui se greffent petit à petit. Et après, ça a été l'idée de la postface, l'idée de faire une postface pseudo-universitaire, qui confirme encore des tas de choses, qui donne des tas d'éléments d'informations, et qui en même temps, ce qui m'intéressait, c'est qu'elle continue la fiction. C'est-à-dire, il y a encore du récit qui se déroule dans la postface. Encore le récit se continue dans la postface, en fait. Ça m'intéressait aussi d'expérimenter ça. Et voilà. Et de penser finalement donc qu'il y a à la fois du récit dans la préface, avec toute l'histoire du livre, qu'il y a encore du récit dans le récit avec le feuilleton de Bretagne, le récit que raconte Bretagne, le récit que raconte Rimbaud, et puis encore des récits du chercheur dans la postface, etc. Donc c'est vraiment une accumulation de récits comme ça, de petits feuilletons. Voilà. Donc, ça s'est vraiment fait, ça grossit petit à petit.
Il y a tout un passage de délire sous l'effet du peyote, donc où graphiquement il y a un traitement un peu différent, ou alors là on est encore très loin de la ligne droite pour le coup. Comment est-ce que tu as abordé, Edith, cette brisure entre ces moments plus terre à terre et ces moments où vraiment les personnages partent dans l'imaginaire, tout se mélange, on ne sait plus trop où on est, on ne sait plus trop ce qui se passe.
D'abord, il y avait l'idée que, comment dire, c'est assez difficile. Enfin, je trouve ça toujours compliqué dans un film où, graphiquement, de représenter un état second sous quelle que soit la drogue ou quel que soit le. Parce que c'est des choses qui sont assez personnelles et souvent on tombe sur des clichés, les alus, les machins, voilà. Et donc, il fallait que ce soit graphiquement quelque chose qui fasse. Comment dire, voilà, qui correspondent à la situation de gens qui sont plus dans la réalité, mais en même temps j'avais pas envie d'utiliser. Donc il y avait les quelques trucs, c'était la brume, parce que ça évidemment il y a toujours cette idée que la brume, ben, ça, comment dire, ça va amener une idée d'irréalité, enfin il y a des choses comme ça. Après les couleurs, mais ben, en fait j'ai simplement pris des couleurs que j'utilise pas dans le reste, c'est-à-dire le orange et un bleu assez, enfin le bleu j'utilise mais jamais avec le orange. Et donc là j'ai trouvé cette petite gamme orange bleu qui, puis après bon après ça repart dans d'autres couleurs, mais pour faire la cassure, c'est vrai que c'est des couleurs qui sont plus tellement réalistes, hein, donc on comprend qu'on n'est plus dans l'histoire. Et voilà, après je voulais pas trop forcer non plus. Je pense que le fait d'avoir ces images de la commune, du soldat versaillais, ça me permettait, moi, enfin c'est dans le scénario, et ça me permettait moi de justement pas avoir besoin d'utiliser des effets trop appuyés, parce que ben voilà, parce qu'effectivement on se retrouvait devant ce soldat, le sabre qui lui coupe la tête, j'ai exprès mis un rouge, j'ai pensé à Kitano dans Satoshi, parce que j'ai dit ce côté un peu grand guignol, voilà, c'est des petites références qui n'ont aucune importance si on le voit pas, mais ça m'a aidé comme ça à juste faire un petit peu irréel, mais pas non plus aller trop dans, voilà, quelque chose de trop délirant et trop caricatural, quoi.
D'ailleurs dans le scénario il y a on se demande, on a l'impression d'être dans un scénario fantastique tout du long, il y a un retour à la réalité, une explication finale. Pourquoi avoir voulu justement ne pas être resté dans la fantasmagorie et garder un côté un peu terre à terre dans l'histoire ?
Bah, il me semble que pour que la fiction fonctionne, il faut qu'il y ait ce côté réaliste, terre à terre. Sinon, après, on peut partir dans des rêveries, dans un peu n'importe quoi. Et je crois que les poètes, c'est ça. Je veux dire, enfin, un type comme Rimbaud, c'est à la fois la réalité de la vie la plus crue. Enfin, c'est l'expérience de la vie. Et puis c'est en même temps aussi la rêverie, la drogue, le voyage. Enfin, je veux dire, c'est des tas de choses. Pour moi, ça rentrait normalement dans le texte. Et puis j'aime bien effectivement d'un coup que les textes puissent décoller comme ça. Ça me permet aussi tout à coup de mettre du Rimbaud dans la bouche de Rimbaud. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans ce texte aussi, c'est d'avoir vraiment des citations complètement entières, quoi, d'avoir des blocs de Lautréamont et des blocs un peu moins importants. Enfin, il y a une citation d'une poésie de Rimbaud, un extrait, et puis les phrases dans le peyote, c'est des extraits des Illuminations aussi, des textes plus que j'aime beaucoup, enfin que je me répète souvent, enfin qui sont des textes que j'aime beaucoup. Et donc, voilà. Donc, c'est ce mélange-là, à mon avis, qui est important. Enfin, c'est que tout rentre conçoit effectivement cette sensation de parfois de choses assez réalistes, puis d'un coup effectivement on décolle, voilà, enfin, c'est des allers-retours comme ça.
Moi, j'ai découvert une période que je connais assez peu. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, comme toi, de concomitances, de choses qui se sont entrecoupées. J'ai découvert un Rimbaud jeune, tel que je ne l'avais pas imaginé, pas vu. J'ai pensé, quand j'ai lu Bretagne et que j'ai vu l'époque, j'ai pensé breton. C'était volontaire, c'était...
Complètement hasard aussi, parce que même Bretagne, j'avais lu ce nom de Bretagne dans une, je réalisais après coup en lisant une bio, enfin sur la bio que j'ai sur mon livre, petit livre Gallimard, je crois qu'il y a le nom de Bretagne qui apparaît, et je l'avais oublié, et c'est revenu quand je cherchais un nom, ce mot de Bretagne, mais j'ai pas du tout pensé à ce moment-là à breton. Et c'est vrai que c'est en voyant le cercle Zutik, j'ai repensé à des jeux un peu surréalistes. Et après, je me suis dit, mais au fond, il y a aussi des raccourcis incroyables. C'est que, bon, Rimbaud est mort à 37 ans, mais il aurait pu connaître André Breton. Quoi. C'est finalement des périodes très proches qu'on n'imagine pas. Enfin, il y a toujours cette espèce de rupture avec la guerre de 14. Mais c'est très, très proche, finalement. Et donc, tout d'un coup, de faire de Bretagne quelqu'un qui a rencontré Breton, qui a vécu très vieux, justement, et voir comment, en vivant jusqu'à 88 ans... Il a pu rencontrer Rimbaud, il a pu rencontrer André Breton et mourir dans les années 20. Et donc j'aimais bien ce court-circuit, mais réel, possible, là aussi. Quoi.
Ok. Donc après la chambre de Lautréamont, quels sont vos projets? Sur quoi est-ce que vous vous lancez? Toujours dans le 19e, Edith?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, je repars sur un livre pour enfants. Parce que, en fait, après ça, ça a été un gros, gros travail. C'était long, donc j'avais envie de retravailler sur un format plus réduit. Et voilà, comme ça me laisse le temps de voir sur les envies que j'ai pour après. Parce que, en fait, je suis pas encore très décidée. Il y a différentes pistes, donc je me laisse le temps. Parce qu'en fait, c'est quand j'ai fini cet album, j'ai senti qu'il y avait quand même... il fallait que je fasse un break. Ça avait été tellement... d'avoir un gros boulot, puis... j'ai grande concentration et du coup c'est vrai qu'après j'ai bien compris que je pourrais pas tout de suite enquiller sur un nouvel album comme je le fais habituellement et c'était très bien que je fasse un break et que je recommence à des logos que je dessine pour moi, je refais de la couleur directe parce que l'ordinateur j'en ai vraiment un ras-le-bol, donc je me suis retrouvée devant ma table à faire des illustrations, des recherches graphiques et je crois que c'était hyper nécessaire parce que c'est pas évident que le prochain album j'ai envie de le faire avec autant d'informatique, donc il fallait que je me remette aussi dans la couleur traditionnelle, avec plaisir en plus. Voilà, donc c'est un moment nécessaire pour que je me recale sur d'autres projets. Et le fait de faire un livre pour enfants, du coup, moi, ça me permet de faire comme un petit livre, mais sans... Voilà, c'est pas très compliqué. C'est un format qui est vite, comment dire, maîtrisé. Donc, il y a... Voilà. Et après ça, on verra.
Et de ton côté, Corcal?
Oui, alors moi, c'est vrai que le scénariste, il y a un côté complètement décalé par rapport au dessinateur, parce que même si après j'accompagne, je refais des corrections, après j'ai fini aussi en faisant la postface, tout ça, c'est vrai que je l'écris fin 2009, le découpage, automne 2009, donc du coup, c'est vrai que c'est... Voilà, et donc moi, entre-temps, effectivement, j'ai aussi des projets. Enfin, c'est vrai que l'idée pour moi, là, qui m'intéresse beaucoup, parce que par ailleurs, j'écris et puis je dessine, et là, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant dans le rapport à la littérature, quoi, en bande dessinée. Donc là, je pense qu'il y a pour moi des choses à faire et qui m'intéressent vachement. Et donc voilà, j'ai même pour moi des projets que j'ai commencé à écrire, des choses qui ne sont pas encore terminées, mais auxquelles je travaille en ce moment. Voilà.
Ok. Dans notre émission, on aime beaucoup demander aux gens ce qu'ils lisent, ce qu'ils aiment. C'est quoi ta dernière découverte BD, ton dernier coup de cœur? Ouais. Souvent, les auteurs de BD me disent « mais j'ai plus trop le temps d'en lire, en fait ».
En fait, je lis beaucoup de romans et du coup, j'arrive à intercaler des BD, mais je dois dire que je lis beaucoup plus de romans. Donc là, effectivement, les derniers livres que j'ai lus, c'était des romans, c'était pas des BD.
Et de ton côté, tes derniers coups de cœur BD, pareil?
Bon. J'ai tellement lu quand j'étais petit que là, des fois, je relis des trucs, mais je suis vraiment plus dans le roman aussi. Quoi.
Ah, attention!
Et alors ça, c'est assez sympa, c'est que c'est un... Alors, évidemment, je ne connais plus ni le titre de l'auteur, ni le titre de la BD, t'imagines bien, évidemment, forcément. Mais en fait, comment dire, on m'a donné un... Alors, qui m'a donné ça, d'ailleurs? Quel éditeur? Où est-ce que j'ai chopé ça? Je suis revenue... Ah non, c'est un libraire. Il m'a donné un livre qui, en fait... qui se passe au 19e, qui parle d'un héros d'histoire qui se matérialise. Enfin, il y a une similitude, pas tellement dans le dessin, mais dans, allez, on va dire dans les, je sais pas comment dire, un petit peu le même monde. Et alors, j'étais très intéressée parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est pas traité de la même manière. Ça, en plus, c'est pas la même histoire. Mais il y avait quelque chose comme ça de mêler le finalement un personnage littéraire avec la réalité, un peu de fantastique. Sauf que voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle et je ne sais plus qui l'a fait et je ne sais même plus chez quel éditeur. Donc débrouillez-vous.
Eh bien, cher auditeur, si vous trouvez la réponse à cette question, mettez-la dans les commentaires.
Aussi, ça y est. Moi, j'ai pas le nom d'auteur, mais le pays de la mémoire blanche que je viens de lire, qui est un très très beau livre, histoire de chat et de chien dans un style extraordinaire où à la fois on a un rapport texte-image aussi. Là, c'est intéressant parce qu'il y a des bandes dessinées qui reviennent au texte-image, comme ça. On recherche, on n'est plus dans la bulle, mais on revient dans des rapports texte-dessin très intéressants, avec des scènes, des grandes séquences muettes, des séquences très écrites. Et je trouve ça passionnant. Il y a vraiment énormément d'expériences à faire en bande dessinée encore. Quoi.
Ben, merci beaucoup, Corcal.
Merci.
Merci, Edith.
Merci, au revoir.
Donc, on vient d'apprendre que Vendry et le parrain du prochain FestiBlog à la remise des prix Révélation Blog. Vendry, tu as l'air tout ému. Qu'est-ce que ça te fait en quelques mots hein, tu...
Oui, très, je fais court, tu me connais. Ceci est la première partie de l'émission. Il y en aura deux autres où je dirai à quel point je suis ému. Je suis pas tellement ému parce que l'émotion, c'est pas trop mon truc, mais plutôt surpris parce que normalement, jusqu'ici en tout cas, ils ont pris des gens talentueux. Et bon, ils ont voulu rompre, peut-être changer, quoi. C'est moi, mais apparemment la marraine sera Marion Montaigne, qui elle est vraiment tellement talentueuse qu'elle compensera largement mon manque de talent. Mais en même temps, je suis très content parce que ça me donne les mains libres pour faire complètement n'importe quoi à ce prochain FestiBlog. Et obliger ceux qui voudront participer à en passer par des trucs pas franchement avouables. Et vu le nombre de jeunes jolies blogueuses, je pense que ça va être assez rigolo. Donc mon mail supervendry@gmail.com, c'est mon ancien mail, mais bon, vous pouvez quand même m'écrire là-dessus. Quoi d'autre à dire? Bah rien. Ça me donne l'occasion de faire une affiche. Ça me fait plaisir parce que j'aime bien faire des affiches. Et puis de trouver des idées pour qu'on fasse des trucs rigolos. Je pense que ça va se faire. Et puis mélanger d'autres choses. Ramener d'autres gens. Bon, ils font déjà ça très bien. Et puis chaque année, il y a des choses assez chouettes qu'on reprend. Bah, je suis content.
Non, mais on voit l'esprit pionnier du FestiBlog.
Ils sont vraiment cons. Non, en fait, je voulais dire que cette nomination, c'est d'abord la victoire d'une équipe, que l'important, c'était le mental, que le public était là, que c'était un peu le 12e homme. Et bien sûr, on a manqué de réalisme en première période, mais qu'à la fin, je veux dire, c'est le mental qui a tout emporté, quoi. On essaiera de faire mieux la prochaine fois.
Merci, Vendry, tu peux aller boire.
Ah, merci, ça va.
Et c'est la fin de la journée, enfin pas pour tout le monde, il est 20h26 et j'ai un peu de montage à faire. Je reviens de la soirée Révélation Blog qui était une très très bonne soirée, vous avez sans doute entendu, vu que je viens de la passer juste avant, l'interview de Vendry qui sera le nouveau parrain du FestiBlog, il vient de l'apprendre, il était ému, c'était beau, c'était mignon. Et puis une soirée sympathique où j'ai testé le jeu de Vendry coup d'un soir où je me suis bien amusé, très sympa, où j'ai rencontré plein de gens de chez BD Maniac, Julien Blondel, qui était un auteur de jeux de rôle très talentueux, Julie Marot, que j'ai réussi à faire rentrer. Et puis voilà, donc c'était très sympa. Il n'y aura pas toutes les interviews que j'ai faites aujourd'hui parce que j'en réserve quelques-unes pour les podcasts. Mais c'est déjà pas mal, j'espère. On se retrouve demain pour une nouvelle émission Super de la mode.